something about it.
Oh, yes, I'm coming. Metamorfose. Bonjour et bienvenue sur Radio Grenouille pour ce cinquième numéro de Métamorphose. Aujourd'hui, c'est Sandra Blondel de Focus 21 qui sera ma coéquipière.
Bonjour.
À la chronique, Cécile Cohen. Pour ce cinquième numéro, on a choisi de faire le focus sur des exemples de coopération. On accueille sur le plateau trois témoignages. Thibaut, de la Darlamifa, nous parlera du collectif des petits lieux, ces endroits conviviaux où il se passe de grandes choses. Magali Poivert et Pierre Blanc nous parleront de la dynamique lancée pour créer à Marseille un supermarché coopératif. Et bien sûr, on ne pouvait pas parler de coopération sans parler de la lutte menée pendant 1336 jours par les anciens Fralib. On accueille donc Henri Solaire, coopérateur de la SCOPTI. Pourquoi parler de coopération? Le contexte un peu flippant fait dire à certains que tout peut s'effondrer, dixit Pablo Sévigné. Ou encore qu'on court vers l'abîme, dixit Edgar Morin. Face à ça, plusieurs options. Le repli, la peur et le rejet de l'autre comme une menace, notamment parce qu'il est autre, est une première option qui se pratique assez bien en ce moment, il faut bien le reconnaître. À l'inverse, la création de liens, d'interactions, faire et agir ensemble pour se faire du bien d'abord et construire des chemins praticables qui vont dans le sens commun, est une autre option. On l'appellera coopération, et c'est sur cette option qu'on va s'arrêter. Pour reprendre un proverbe qui trouve ses sources en Afrique, je n'ai pas réussi à savoir de quelle partie de l'Afrique il s'agissait, « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Sans ignorer le fait que la coopération peut être forcée ou fortement encouragée par des éléments extérieurs, elle suppose de repenser le rapport au pouvoir et le rapport à l'autre. Elle suppose donc d'inventer, de créer des interactions favorables à la construction du sens commun. Attention, comme le dit Déborah Tannen, linguiste, la coopération n'est pas l'absence de conflits, mais un moyen de les gérer. Finalement, la coopération est avant tout une attitude. On dit bien avoir l'esprit de coopération. Sur le plateau, on a voulu inviter des personnes qui viennent partager avec nous différentes formes de coopération, informelles ou plus structurées. Sandra accueille donc notre premier invité, Thibaut.
Bonjour Thibaut, donc vous faites Bonjour. Partie de la Darlamifa, qui est un espace d'épanouissement populaire qui se situe en haut de la rue d'Aubagne dans le quartier du Cours-Julien. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette maison un peu particulière où la coopération tient une place importante, qui a ouvert ses portes en octobre 2013?
Très bien, écoutez, oui, on a ouvert ça du coup il y a 2 ans et demi. Du coup, on était plusieurs à venir du monde de l'éducation populaire. Et on a voulu créer un espace d'animation un peu pluridisciplinaire avec différentes choses qui s'y passent et que ça soit vraiment réfléchi comme un outil en fait que plein de collectifs ou plein d'associations puissent se saisir, organiser des choses là-bas. Donc il y a des ateliers de danse, plein de choses. Il y a aussi des choses plus festives comme des concerts. Du théâtre, beaucoup de soirées de soutien, des soirées de soutien pour des collectifs. Par exemple, on a accueilli le collectif Migrant au mois de novembre. Là, on va accueillir la semaine anticoloniale et antiraciste. Du coup, voilà, pas mal d'actualités militantes aussi.
Donc un lieu collectif, autogéré et ouvert sur le quartier. La Darlamifa s'inscrit aussi dans de nombreuses dynamiques collectives et coopératives. Je pense notamment en fait au réseau régional des cafés associatifs. Pourquoi participer à un tel réseau? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les projets collectifs qui sont menés au sein de ce réseau des cafés associatifs?
Du coup, oui, c'est un réseau qui est né maintenant il y a à peu près un an et demi. Du coup, l'idée c'était d'échanger ensemble sur nos pratiques, hein, parce que le réseau représente à peu près 20-25 cafés associatifs répartis dans toute la région PACA, jusque même dans les montagnes des Alpes. Voilà. Du coup, il y a des cafés associatifs ruraux, d'autres urbains. Et du coup, c'est vrai que c'était l'occasion un petit peu de se rencontrer et d'échanger sur des problématiques communes, notamment des problématiques de structuration, le rapport au juridique, le rapport à l'économique, et aussi réfléchir aussi sur l'objectif, la finalité, tout ça, les intentions de nos cafés. Du coup, on a beaucoup échangé, on a beaucoup ri aussi. C'est des rencontres souvent qui sont vraiment sympas. Et du coup, on s'est mis en marche vers des chantiers, notamment. Là, il y a un chantier qu'on vient de finir, c'est l'écriture d'un manifeste commun, donc des réseaux associatifs de la région PACA, où on a mis différents points en fait qu'on retrouvait dans nos différents lieux. En gros, il y avait le fait que souvent ça soit des lieux qui soutiennent une économie de proximité locale, principalement respectueuse de l'environnement, que ça soit aussi donc qui porte aussi une logique d'éducation populaire aussi, du coup avec des projections, débats, des accueils de différents collectifs, de dynamiques citoyennes ou autres. Il y avait aussi la dimension de scène culturelle. Du coup, il y a beaucoup de nos cafés accueillent des concerts, des choses comme ça. Donc voilà, et aussi l'idée de la gestion collective en fait. Ça aussi, c'est un point très important de nos lieux. C'est que ça s'appuie sur donc c'est une association, donc c'est porté par c'est un conseil d'administration bénévole. Il y a certains cafés qu'on des salariés aussi, mais il y a aussi énormément de bénévoles qui aident à la gestion du café, qui prennent les décisions, qui portent des projets. Donc c'est vraiment riche.
Donc un très beau projet d'écriture collaborative avec ce manifeste. Et il me semble aussi que prochainement vous accueillez à la Darlamifa ce réseau-là. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de ces rencontres?
Oui, effectivement, on va accueillir ça. Donc en fait, on se retrouve au niveau régional tous les 6 mois en gros. Du coup, là, on va accueillir nos copains en avril. Du coup, là, on va continuer à réfléchir beaucoup aussi autour de nos structurations juridiques, des problèmes de gestion, comptabilité, des choses comme on peut répondre aussi collectivement à ça en mutualisant des forces. Du coup, c'est assez riche. En fait, ces rencontres-là vont précéder les rencontres nationales, parce qu'on est aussi dans le réseau national. Du coup, on va faire 2 jours de rencontres régionales, suivi de 2 jours de rencontres nationales. Et du coup, on va aussi présenter notre réseau régional au réseau national qui... parce qu'il n'y a pas tant de... Il y a quelques réseaux régionaux, mais pas aussi développés que celui en PACA. Du coup, ça va être aussi un peu l'occasion de faire un retour sur notre expérience, de communiquer là-dessus. Et du coup, effectivement, c'est organisé entre la Darlamifa et l'Équitable Café. L'Équitable Café, qui est un vieux café associatif de Marseille, qui a plus de 12 ans d'existence, et qui, du coup, aussi est un lieu référence porteur de toutes ces dynamiques-là aussi.
Et un autre projet coopératif dans lequel vous êtes particulièrement impliqué à la Darlamifa, c'est le collectif des petits lieux. Alors, il me semble que c'est un collectif qui rassemble une 30aine de petits lieux marseillais. Et vous allez organiser prochainement un festival. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus ce que c'est que ce collectif et donner un peu des exemples? Parce que c'est vrai que 30 petits lieux à Marseille, ça me paraissait énorme. Donc voilà, est-ce que vous pouvez raconter un peu?
Eh bien oui, Marseille est riche de plein de petits lieux, de plein de projets comme ça, ancrés dans des petits cafés ou voilà. Alors c'est assez étonnant de se dire qu'il y a autant de lieux, mais il y en a vraiment autant et peut-être qu'il y en a même plus. Enfin, vraiment en fait, ce qui est particulier, c'est que chaque lieu a vraiment son identité, sa particularité.
Par exemple.
Je pense par exemple à l'Embobineuse, qui est dans une culture très underground, punk, voilà. Je pense au Kawawatei, lui qui est un lieu plutôt sur tout ce qui est culture méditerranéenne, arabe, etc. Voilà, je pense à l'Équitable Café qui est vraiment dans une dynamique militante de tout ce qui est soutien un peu à une économie locale respectueuse de l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Data qui est une médiathèque de culture punk aussi. L'asile 404 qui est un lieu d'expérimentation artistique avec beaucoup de voilà tentatives artistiques assez chouettes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Casa Consola qui est aussi plutôt dans une culture italienne, un peu de toutes ces qui suit pas mal de la migration italienne. La Maison qui est un lieu flamenco, enfin voilà,
ça foisonne.
Je pourrais en dire beaucoup, mais
il me semble en fait que dans le cadre de ce festival, il va y avoir un apéro itinérant qui va nous permettre de découvrir un peu tous ces lieux, c'est ça?
Exactement. C'est vrai que l'on est parti sur une quinzaine de lieux là pour l'instant qui vont participer à cette initiative. Du coup, l'idée, ça serait de faire plusieurs parcours et d'arpenter plusieurs lieux lors d'une soirée. Donc ça serait le vendredi soir. Donc en fait, cet événement est prévu justement fin avril, le 29 avril, vendredi 29 avril et samedi 30 avril. Sachant que c'est un peu un préambule au 1er mai qui tombe le dimanche et où on fera tous ensemble la traditionnelle sardinade de la place de Jean Jaurès.
Donc plus d'infos sur le site de la Darlamifa ou comment est-ce qu'on peut...
Alors pour l'instant c'est vrai que c'est en construction, on n'a pas encore vraiment un outil de communication, même si ça arrive vite. Voilà, la particularité de ce genre de lieu c'est aussi qu'on est vraiment pris aussi par nos lieux et c'est vrai que ça demande une gestion un peu particulière. Mais en tout cas c'est chouette de se rencontrer dans l'action et de pouvoir partager un peu, mais ça va arriver... Sur les murs de la ville, je pense qu'il y aura matière à trouver ce genre d'informations.
Vous écoutez à Métamorphose avec les grenouilles.
Merci Thibaut. On accueille maintenant Magali Poivert et Pierre Blanc. Donc bonjour.
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 Magali et Pierre, vous avez lancé un projet de supermarché coopératif sur Marseille. Si je dis que le supermarché coopératif est un supermarché qui appartient aux personnes qui vont y faire leurs courses, est-ce que je me trompe un peu, beaucoup ou pas du tout?
Pas du tout. pas du tout. Alors supermarché coopératif, des fois ça peut faire un peu peur parce que le mot supermarché, c'est pas très sexy. Disons que c'est une coopérative alimentaire de consommateurs. Et le principe est bien que... les membres y participent et peuvent ensuite consommer dans ce supermarché ou ce magasin. Voilà.
Pierre, c'est quoi la différence entre un supermarché coopératif et un groupement d'achat?
La différence va être au niveau du lieu, c'est-à-dire qu'à un supermarché coopératif, on va se retrouver vraiment dans un espace où il va y avoir une vie économique qui va aller au-delà d'un simple groupement d'achat, ou le groupement d'achat, pour préciser ce que c'est peut-être, c'est donc un collectif de personnes qui vont se mettre sous forme associative, ou d'ailleurs il y a même des statuts juridiques pour ça, qui vont se mettre ensemble pour acheter une quantité de produits et permettre de faire baisser le coût, puisqu'ils achètent une certaine quantité. Et ça va se faire de manière ponctuelle. Alors que là, l'idée du supermarché coopératif va être... De proposer ça comme avec des heures d'ouverture de magasins et que tout le monde puisse avoir accès en permanence. Enfin, il y a quand même des jours où il faut se reposer, mais voilà, en permanence à ces produits.
Avec une diversité de produits très large, je suppose. Magali.
Oui, bien sûr. Tout dépend, en fait. Tout est possible.
D'accord.
En gros, c'est un projet qui permet un peu tout. On peut créer le supermarché. L'idée, c'est de pouvoir avoir le maximum de produits et d'en faire un lieu où on participe, on en est membre, on participe à son fonctionnement et on peut consommer et on peut trouver tous les produits qu'on achète pour la vie courante. Ce qui permet d'éviter d'aller acheter ailleurs d'autres produits complémentaires.
Magali, le concept vient des États-Unis où le premier supermarché coopératif a été créé à Brooklyn en 1973. À quel besoin est-ce que ça vient répondre et comment vous est venue l'envie d'en créer un à Marseille?
Alors, personnellement, j'ai découvert ce projet via un projet français qui est le supermarché coopératif de la Louve, qui se monte depuis 2010 à Paris. Et j'ai découvert ce projet il y a environ un an et demi. Et en découvrant ce projet, j'ai découvert le concept new-yorkais. Et, Et en voyant ça, je me suis dit, mais c'est génial, il faut que j'aille voir ce qui se passe ailleurs. Et j'ai découvert qu'il y avait un mouvement qui était en train de grandir en France, avec des villes qui s'emparaient de ce projet, qui étaient en train de monter aussi leur supermarché coopératif, Toulouse, Bordeaux, Montpellier. Et donc j'ai cherché le groupe à Marseille qui était en train de monter ça, puis j'en ai pas trouvé. Donc j'ai rencontré Pierre et puis on s'est dit, on va lancer le mouvement ici.
Et la Louvre, donc ça a été lancé en 2010-11, et c'en est où ce projet à Paris, Pierre?
Le projet va voir le jour. En fait, le magasin va ouvrir précisément en juin 2016. Sachant que le contexte parisien est assez particulier et ils ont malheureusement un peu pris du retard sur leur projet pour aussi des questions immobilières. Mmh. Mais le processus là, dans ce cas particulier, a pris 6 ans. Si c'est mené d'une autre manière, avec beaucoup d'énergie, une belle motivation, c'est quelque chose qui peut s'envisager dans un temps beaucoup plus court.
D'accord. Donc, on reviendra tout à l'heure sur les étapes pour lancer ce supermarché coopératif. Donc, en gros, à Paris, la difficulté principale, ça a été l'immobilier, en fait, l'accès à l'immobilier, c'est ça ?
Vraisemblablement.
Oui, et puis aussi qu'ils ont lancé quelque chose qui existait en France.
Ils ont défriché, quoi.
Au 19e, mais ils ont dû. Il y avait la question du local, mais il y a aussi la question du juridique. Ils ont fait tout un travail de défrichage et qu'ils ont mis à disposition de tous les autres lieux et villes qui souhaitent développer leur projet.
En open source.
Exactement.
et alors, Pierre, c'est quoi la place des coopérateurs, hein, parce qu'on parle de coopérateurs dans ces cas-là. Si vous pouvez juste nous dire, justement, on n'a pas parlé de la forme juridique, je vais vous laisser développer, mais comment est-ce qu'ils prennent part concrètement, qu'est-ce que ça leur donne comme pouvoir, comme droit dans la coopérative?
Une fois que le projet existe, qu'on a le supermarché, le droit, on a l'accès à ce magasin, et on a un engagement et financier, puisqu'on a des parts sociales dans la coopérative, et un engagement moral, finalement, c'est de faire en sorte que ce projet fonctionne, de pouvoir faire en sorte que tous les gens puissent continuer à avoir accès au magasin et aux produits. Donc le principe est aussi de donner un peu de son temps pour des tâches courantes. Ça va être, par exemple, dire une fois toutes les 3 semaines, je vais donner 2 heures de mon temps pour encaisser, pour être à la caisse et faire passer les produits. Ça peut être aider à trouver des nouveaux producteurs, puisqu'on se dit on aimerait réorienter nos modes d'approvisionnement, on veut quelque chose de plus local. Donc il y a des gens qui vont se dire moi j'ai envie de travailler là-dessus, je veux des farines locales, bio ou pas bio, peu importe, mais on veut quelque chose de différent. Ils vont se lancer dans la recherche de ça. Ça va être de travailler aussi de donner un peu de son temps pour faire de la communication, pour faire de l'événementiel autour du magasin.
Ok, donc Magali, en gros, ils donnent de leur temps avec une fréquence qui est déterminée à l'avance, et par ailleurs ils ont le droit aussi de participer au choix des produits.
Donc en devenant membre de la coopérative qui existe et qui est créatrice d'emplois, parce que ce projet, il peut exister aussi que s'il y a des personnes qui coordonnent, et donc il y a création d'emplois et de salariés, mais quelque chose qui est moins important qu'un supermarché classique. Donc en devenant membre de la coopérative, ils s'engagent ils prennent part à la société, ils ont un droit de vote, ils s'engagent à travailler un certain nombre d'heures. Alors, il y a des modèles différents. Après, c'est des choses à inventer, mais ça peut aller entre 2 et 4 heures par toutes les 4 semaines. Et effectivement, sur des tâches, soit les mêmes à chaque fois, soit on change.
Avec l'objectif, évidemment, de baisser les coûts, puisqu'il y a des équipes bénévoles qui viennent donner de leur temps, quoi.
Tout à fait. Donc, le principe, c'est qu'en s'associant, en se regroupant, et en participant au fonctionnement, on fait baisser la marge nécessaire au fonctionnement du supermarché, et donc on permet l'accès à des produits de qualité à des prix plus bas.
Ok, merci Magali. Pierre, il y a des explorateurs belges qui sont partis à la rencontre du premier supermarché coopératif à Brooklyn. Ils nous racontent qu'il a été créé par des hippies fauchés afin d'accéder à une nourriture de bonne qualité, moins chère. Est-ce que le supermarché qui verra le jour sera accessible aux personnes fauchées ?
Ce supermarché, s'il voit le jour et s'il ne remplit pas cette condition-là, sera peut-être un échec. Et on a réellement envie que ce soit quelque chose de participatif, de viser tout un enjeu de mixité, d'insertion, de partage et de s'adresser à tout type de population. Sans considération. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se... Il faut vraiment se poser la question de son environnement social et tout le monde a ce droit à accéder à des produits de qualité, des produits locaux et à moindre coût. Et donc tout l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que ces gens aient accès à ces produits-là.
Vous avez, Magali, déjà embarqué d'autres personnes avec vous dans l'aventure. C'est quoi les prochaines étapes ?
Alors, on va avoir une prochaine réunion qui va se passer le 30 mars.
Alors,
à la ruche.
Il y a une petite hésitation sur le lieu. À la ruche. Bon, de toute façon, les infos, vous donnerez le lieu, de toute façon, sur le Facebook, par exemple.
Mais la prochaine, voilà. Donc, la prochaine réunion, c'est le 30 mars. Et on a commencé à communiquer pour essayer d'avoir un peu de monde et lancer vraiment le mouvement.
C'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui veulent.
C'est ouvert à tout le monde, oui.
OK. Et comment est-ce qu'on fait justement pour rejoindre la dynamique si on est intéressé ?
On a créé une page Facebook qui s'appelle Supermarché Coopératif Marseille, où là il y a des informations, qui renvoie aussi un mail, un Gmail tout simplement, qui est supermarché@marseille.com. Et pour l'instant on en est là, on attend, on va lancer un site internet dès que possible, dès qu'on aura les...
Dans l'idéal, la masse critique, enfin en tout cas le nombre de personnes que vous visez idéalement, ça serait combien de personnes ?
Pour la prochaine réunion ou...
pour lancer vraiment le, enfin ça, ce que vous dites, ça est top départ, on est suffisamment nombreux pour y aller, pour que ce soit viable quoi.
Je sais pas encore combien. Après, il y a des choses qui ont été travaillées. Ça peut être 1000 personnes. C'est vraiment des calculs et pour un équilibre entre le nombre de personnes, un nombre de mètres carrés local et ce qu'on veut créer du supermarché, c'est-à-dire une amplitude horaire, etc. J'ai vu qu'il y a des exemples de supermarchés où ils sont 200.
Ouais. Et à l'inverse, à Brooklyn, ils sont 16 000.
C'est ça.
Ils sont 16 000. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup, comme il y avait ce qu'ils appelaient un surplus de bénévoles, du coup, il y avait même des personnes qui allaient accompagner les personnes avec leur sac au métro, parce que du coup, ils avaient du temps. C'était... OK. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter, ou Pierre, Magali ?
Non, je ne sais pas, rejoignez le mouvement.
C'est ça, rejoignez-nous. La prochaine réunion, c'est bien le 30 mars et on va faire quelque chose d'assez étonnant. On va réussir, je l'espère, à trouver un nom à ce projet tous ensemble. Et ce sera un bon moment, donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et ce ne sera pas la sardine, hein.
Le poulpe.
Bien, de toute façon, toutes ces infos seront sur le site de Radio Grenouille. Merci Magali, merci Pierre.
Merci.
Voilà, donc rien à voir avec la choucroute, mais plutôt avec les spaghettis. On écoute Acid Lama du groupe marseillais Rodeo Spaghetti.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra. Wow, wow, wow. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit.
Reprise à morceaux des années 60, Laisse tomber les filles de France Gall. C'était Acide Lama de Rodeo Spaghetti, un groupe marseillais bien péchu, qui sera en concert le 1er avril à l'atelier Méta dans le 3e, avec Monsieur Watt en DJ, Monsieur Watt de Radio Grenouille bien sûr. Un autre groupe local bien péchu, c'est la Scoptie à Gémenos, sauf que eux, ils chantent pas, quoique. On accueille donc Henri Solaire, coopérateur de la Scoptie.
Bonjour.
Henri, bonjour. Nous sommes vraiment très heureux et très honorés de vous accueillir sur le plateau de Métamorphose. Donc vous faites partie de la 60aine de coopérateurs de Scoptie, donc qui veut dire Société coopérative et ouvrière provençale de thé et infusion, qui a été créée en novembre 2012, si je ne m'abuse. Et donc nous avons peu de temps malheureusement pour raconter tous les rebondissements de l'histoire incroyable de cette coopérative, donc qui est née d'une lutte, Alima le disait, de 1336 jours suite à l'annonce du groupe Unilever en septembre 2010 de la fermeture de l'usine donc de thé éléphant à Gémenos sous prétexte qu'elle n'était pas rentable. Donc lutte lors de laquelle vous avez mené avec vos collègues Fralib tous les combats. Du boycott aux occupations de l'usine, au combat juridique qui vous a amené à faire plier trois plans sociaux. Et vous avez même occupé en 2013 le ministère de l'Agriculture. Donc la première question que je voudrais vous poser, Henri, c'est qu'est-ce qui vous a fait tenir debout pendant ces 3 ans et 124 jours de lutte ?
Eh bien, je crois que certes, nous étions forts, parce que nous étions très organisés, bien évidemment, il y a un syndicat derrière, pour ne pas la nommer la CGT, mais aussi il y a eu beaucoup de solidarité autour de nous. Et il y a toujours eu de la solidarité pendant les 1336 jours, mais aussi au-delà des 1336 jours, mais voilà, sur la création de l'entreprise aussi, et encore aujourd'hui, il y a cette solidarité qui est encore autour de nous.
Et du coup, quels ont été les moments les plus forts pour vous dans cette lutte ?
Évidemment, la fin de conflit, parce que bon, voilà, c'est ce qu'on attendait. C'était une libération, bien évidemment. Comme tu l'as dit, on a cassé 3 fois le PSE, hein, plan de sauvegarde de l'emploi. Enfin, ils donnent de nouveaux sens aux mots, alors qu'on est là. Enfin, ils sont là pour casser les emplois. Donc, effectivement, le fait de démarrer ce projet, qui était que sous projet, qu'on a quand même développé tout au long des 1336 jours, hein, on n'est pas resté bras ballants, comme on dit. Hein. Et donc, voilà, on a mis nos statuts en route, la mise en route, les certifications, les autorisations administratives d'exploitation, enfin bref, toute une série de choses que, voilà, nous sommes confrontés aujourd'hui. On a fait notre évolution, je dirais, culturelle, puisqu'on est passé d'opérateurs, d'ouvriers à bien évidemment à maîtriser notre destin. Et donc là, ben, il fallait aussi mettre en jeu un certain nombre de choses, notamment dans le cadre des formations, pour que nous puissions développer nos compétences. Voilà, chacun dans ce qu'il il pouvait exceller, hein. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc effectivement, c'est le sorti de ce conflit qui a été le pur bonheur, comme on dit.
Qui était le 26 mai 2014.
Exact, oui. Alors, pour tout dire, tout à l'heure, tu disais novembre 2012. En fait, voilà, le départ de l'entreprise, c'est mai 2014, sortie du conflit. On dépose nos statuts et on commence la réactivation de l'entreprise. D'abord, sur la première année, sans activité. Et puis, au sortir de mai 2015, où on présente nos deux marques, 1336 pour la grande distribution, et puis Scopti, qui est plus une marque pour les réseaux alternatifs, comme nos copains des super marchés coopératifs. C'est très intéressant d'avoir nos produits là-dedans, par exemple.
Et du coup, en fait, pourquoi avoir choisi la forme coopérative et comment est née, en fait, cette idée?
Alors, la forme juridique, au départ, elle s'était pas présentée comme... s'il faut revenir un petit peu dans le cadre de la lutte, pour tout dire, au tout début, on disait, votre motif économique, il n'est pas viable, il n'est pas justifié. Donc, revenez sur votre décision. Ça, c'était la première démarche. La deuxième, on a dit, bon, attendez, il y a le marché en Europe, le marché français, c'est celui-là où il y a les plus grandes marges que vous faites. Ben, s'il y a un repreneur, ben, prenons un repreneur. Mais il se trouve qu'il y a eu un certain nombre d'embûches qui ont été générées, bien évidemment, par nos amis d'Unilever. Et donc, il a fallu, à un moment donné, prendre les devants. Et c'est en janvier 2011, lorsqu'ils reprennent donc le deuxième PSE, qu'on présente effectivement notre projet de Scope.
Et du coup, quels sont les grands principes en fait de fonctionnement de la coopérative?
Alors, je les ai notés. Il y a la démocratie, la solidarité, la responsabilité, la pérennité de l'entreprise, la transparence, la proximité. Et le service, il y en a 7 au total. Je les ai notés pour ne pas les oublier.
Mais est-ce que tu peux expliquer un peu plus, par exemple, le principe de démocratie? Ça veut dire quoi dans les faits en pratique?
Disons que on est une entreprise, certes, avec des coopérateurs, donc des associés. Mais donc il y a une élection qui se fait à l'intérieur, notamment du conseil d'administration. Donc il y a une élection qui se fait par les pairs, donc par les associés. Ça, c'est l'espace démocratique qu'on a toujours œuvré. J'ai même compris dans le syndicat, surtout dans le syndicat. Cette valeur démocratique, elle a toujours été dans nos gènes, pour tout dire. Donc, c'était cette forme juridique de coopérative, c'était une évidence. Même si elle n'est pas complètement parfaite, comme on pourrait le dire.
Donc, un homme égale une voix.
C'est ça. On est tous égaux. Encore une fois, on y arrive quelquefois d'être à l'égalité, hommes et femmes. Donc voilà, cette histoire, c'est que effectivement, on élit notre conseil d'administration qui lui-même, après, désigne son président, qui est aujourd'hui, par exemple, notre ancien secrétaire du CE, Gérard Cazorla, pour ne pas le nommer.
Oui, qui est aussi une figure de la lutte.
Complètement. D'ailleurs, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que justement il y avait un conseil d'administration aujourd'hui. Donc voilà, c'était lui qui était initialement prévu, mais bon. On va dire que quel que soit, je dirais, l'associé, sur la valeur de la transparence, on est tous au fait, je dirais, de la marche de l'entreprise. Donc du coup, on est tous en capacité de pouvoir en parler.
Et au niveau de l'échelle des salaires aussi, l'écart entre les plus bas et les plus hauts salaires, est-ce que tu peux en parler?
Oui, chez Unilever, par exemple, c'était de 1 à 320. Par exemple, vous avez notre ami directeur Unimonde qui était à 320 000 euros par mois. Donc nous, chez nous, on est à 1,20. C'est vraiment... et parce qu'on n'a qu'un seul cadre. Pour tout dire, c'est... On a besoin... de tampons par rapport à l'extérieur, justement. Nous, on est tous responsables, on est tous égaux. Et évidemment, à l'extérieur, on demande des interrupteurs. Et pour cela, bah, il faut des titres. On n'est pas pour les titres, mais il en faut pour les gens qui sont extérieurs, qui ne comprennent pas forcément notre démarche égalitaire ou démocratique. Donc du coup, bah, on a désigné un copain qui s'est présenté volontairement. Enfin, on l'a désigné volontaire. Non, je rigole. Il s'est présenté, puis bon, c'est lui qu'on a mis comme directeur. C'est Marc Décugis, pour tout dire. Et donc, c'est le seul cadre de l'entreprise, mais bon, il touche que, on va dire, 200 euros de plus brut par rapport à un opérateur classique.
Oui, donc ça change des échelles de salaire.
On est plus sous la forme pyramidale, on est plutôt sur la galette de vinyle.
Et sur la répartition des dividendes aussi, ça change beaucoup.
Ah oui, ben, étant donné que c'est la cause des fermetures, en fait, compte de ces entreprises, c'est le capital, c'est le coût du capital qui rend ces choses-là possibles. Eh bien, nous, on a dit, le capital, ce qu'on investit, ben, ça aura zéro. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de revenus sur capital. Par contre, on a pris des décisions sur les salaires. Voilà, sur les salaires, comme tu viens de l'expliquer, sur les conditions de travail aussi. Donc, ça participe à notre condition de vie à l'intérieur de l'entreprise.
Et du coup, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la dimension coopérative dans la lutte, parce que là, on a beaucoup parlé de la coopérative telle qu'elle est aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu des épisodes marquants dans toute cette histoire des 1336 jours?
Ben, je crois que ça a été dit un petit peu là tout à l'heure sur... C'est vrai qu'on a envahi le ministère de l'Agriculture, tout simplement. Bon, ça, c'était assez fort, comme on dit, puisque c'était une initiative qui était coordonnée, on va dire, avec le syndicat. Mais c'était une décision aussi qui a été prise collectivement. Les initiatives, c'est nous qui les portions, qui les imaginions, chacun donnant son opinion, bien évidemment, pour que ce soit toujours bon, fait d'une manière... parfaite. Et ça, celle-là, par exemple, elle a été significative. Mais pas que, par exemple, aussi le fait d'envahir Notre-Dame de la Garde.
Ce que tu peux raconter?
Oui, c'est avec notre fédération. D'ailleurs, on a encore la super grande affiche où on dit que l'éléphant doit vivre à Marseille. Eh bien, on l'a affiché sur Notre-Dame de la Garde, comme on dit. Et là aussi, ça a été une conjonction, je veux dire, de plus de 1000 personnes de notre fédération, que de notre fédération, on ne parle pas de Confédé, de notre Fédé, et qui sont venus de toute la France et ils nous ont apporté effectivement leur soutien en faisant une manifestation, puis bien évidemment en faisant cette initiative où on a été vu, plus que vu, puisqu'on a fait aussi un lâcher de ballon devant le MEDEF, pour tout dire. Et donc voilà, ça a été aussi quelque chose d'assez fort. Et d'assez fort, de très fort, et puis voilà, où on a pu, en étant organisé, bah, de pouvoir le faire.
Et moi, je pense, j'ai des images en tête, parce que pour préparer cette émission, j'ai vu deux films, en fait, qui ont été faits sur l'histoire des Fralib. Donc je vous les conseille, c'est deux films réalisés par Claude Hirsch. Donc le premier s'appelle « Peau de thé, peau de fer », et le deuxième s'appelle « 1336 jours, des hauts, des bas, mais debout ». Et du coup, je vous conseille vivement de regarder ces films qui sont distribués dans un double DVD et qui racontent bien, voilà, toute l'histoire de la lutte, et même avant, les conflits avec Unilever et les délocalisations qui avaient déjà eu lieu depuis le Havre. Je ne sais pas si vous faisiez déjà partie à l'époque des gens qui...
Alors, moi, j'ai bénéficié, entre guillemets, de la non-venue d'un copain du Havre, qui a fait le choix de rester sur place, donc chez lui. Et moi, j'ai bénéficié d'une embauche à ce moment-là. J'ai changé simplement mon statut de précarité, en fait. C'est lui qui a pris ma précarité. Moi, j'ai pris son CDI, malheureusement, j'allais dire. Enfin, malheureusement pour lui, parce que quand après on a fait le suivi de la fermeture du Havre, ben, vous savez, les multinationales se délassent vite du suivi, justement, des fameux PSE. Et donc, on s'aperçoit, 15-16 ans après, que les copains, ben, ils sont toujours au chômage. Et ils rebondissent pas. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites dans comment fonctionne gérer une entreprise, notamment par exemple sur le plan de formation, là où aujourd'hui on parle beaucoup de formation, mais en vérité, on est dans des strates où Effectivement, les ouvriers, il y a trois catégories, on va dire très simplement, de salariés, où il y a des ouvriers, des employés, puis les cadres. Et on va dire que les plus belles formations, celles qui sont formatrices et qui donnent des qualifications, ben, on va dire que c'est celles qui sont en haut qui les prennent. Et nous, on reste, on va dire, un peu sur place. C'est-à-dire que quand après on vous annonce une fermeture, eh ben, vous êtes coincé parce que vous êtes hyper spécialisé, ouvrier spécialisé, OAS. Mais c'est comme ça qu'on nous appelle. Qu'on nous appelle aussi encore aujourd'hui. Et donc, cette spécialisation, le fait que quand l'usine ferme, eh ben, on vous retrouve dehors, vous avez une main devant, une main derrière. D'où l'intérêt de garder son emploi et son usine. C'est ce que nous avons fait.
Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être son propre patron ?
Alors, j'aime pas trop le terme de patron. Je dirais plutôt, être son propre maître. Si on pourrait le dire comme ça, sous forme de fable. Mais bon, le patron, c'est quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre. Or, nous sommes un collectif d'associés et nous avons des comptes à rendre à nos copains, enfin aux autres coopérateurs. Donc, on ne peut pas parler de patron, on parle de coopérateur, et bien de gens responsables plutôt que de gens, enfin de patron. J'aime pas ce terme, ni le cadre de direction d'ailleurs. C'est quelque chose qui... C'est des mots qui sont rattachés avec des choses sur lesquelles on ne doit pas donner de compte à rendre derrière. Or, on doit donner des comptes, y compris aux autres associés, mais y compris vis-à-vis de l'entreprise. Et ça, si vous êtes patron, on le voit bien, y a des gens qui ferment des entreprises, et en plus, on leur met des retraites chapeaux, des stock options, Et donc, on est sur une dimension de responsabilité et je crois qu'on le demande tous les jours, au jour d'aujourd'hui. On prend nos responsabilités, mais on n'est pas des patrons.
Et donc, en mai 2015, vous avez lancé les deux marques, vous en parliez tout à l'heure, donc 1336 et Scopti, donc une marque distribuée en grande distribution et l'autre marque distribuée dans les magasins spécialisés. Du coup, quels sont les prochains défis à relever ?
Ben, en fait, au niveau de l'activité, on est qu'à 6 mois d'activité à proprement parler. On est sur notre prévisionnel, pour tout dire, au niveau des volumes engagés et à fabriquer. Donc, en fait, on a trois activités dans l'entreprise, comme vous l'avez dit. C'est le 1336 qui est dans la grande distribution, ça on l'a déjà fait. Là, c'est la gamme Scopti. Bon, on a sorti le Thier des Baronnies. C'est juste le premier produit qu'on a sorti parce qu'on avait. Et là, on va sortir toute la gamme à partir de 2016. Et là, c'est tous les biocoop qui sont dans cette démarche aussi coopérative qui vont pouvoir bénéficier de cette gamme. Et puis. Tous ceux qui sont intéressés pour des réactivations de production locale, bio, évidemment. Voilà, ça fait partie aussi de l'activité de la coopérative aussi.
Travailler aussi avec des fournisseurs locaux, des producteurs locaux et de réactiver des filières en fait, locales. Quoi.
Oui. Enfin, j'ai noté pour pas trop les... On a Adatrice, par exemple, qui est dans le Pays de la Loire. Bon, quand on dit local, c'est vraiment national. Et sinon, on a aussi Elixens, qui est spécialisé dans le thé, dans le cadre des produits bio-équitables et bio-solidaires aussi. Et donc, ça fait partie des partenaires avec lesquels on travaille. Et donc, ils vont nous fournir effectivement le produit pour pouvoir créer cette gamme de Scopti.
Donc pendant la lutte, vous avez été extrêmement créatif, pas seulement en termes de stratégie de lutte, on l'a vu, mais vous avez aussi écrit et mis en scène une pièce de théâtre et vous avez monté un groupe de musique dans lesquels vous avez joué, Henri.
Oui.
Et du coup, on va écouter un de vos morceaux, Los Fralibos.
Nous, ça fait 3 ans qu'on lutte. 3 ans qu'on lutte, on en a vécu pas mal. On a eu à un moment donné, été obligé et contraint de prendre notre cousine parce qu'il voulait la déménager.
Los Fralibos, Los Fralibos, l'éléphant. Los Fralibos, Los Fralibos, l'éléphant.
Cet horizon, cette maison, elle est à nous.
La Sainte-Baume et son étoile, veille sur nous.
Pensait-il vraiment qu'il pourrait nous mettre à genoux?
Force et bonté, usine hantée, toujours debout.
Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant.
Là où tu es né, là où tu restes, en Provence.
Là où tu infuses, là où tu diffuses, partout en France.
Ces ouvriers, sans ta mémoire, ta renaissance.
Est-ce que tu entends leur cri et leur chant?
Résistance. Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant.
Envoyé au cimetière, contraint et forcé.
Ils pensaient faire loi sur cette terre, ils ont oublié
que l'éléphant obstinément n'est pas sans défense.
Est-ce que tu entends son barissement?
Résistance. Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, l'éléphant.
Plus de 100 ans que tu délivres cette fragrance.
À ta santé, toi éléphant de notre enfance.
Et dans 100 ans, ceux qui viendront à Germanos
pourront encore sentir l'odeur du thé
et Falibos. Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant. Los Falibos, Los Falibos, l'éléphant.
Ils nous ont envoyé 3 miliciens armés et des Golgothes venus des pays de l'Est pour frapper sur les salariés de Fralib qui défendaient leur outil de travail. On s'est fait frapper sur la gueule, nos fans se sont fait frapper, la gendarmerie n'a pas bougé, on nous a expliqué qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce que c'était une boîte privée. Les voyous, si vous voulez les chercher, venez avec nous, on va vous les montrer.
Donc vous pouvez retrouver ce titre dans un CD qui a été enregistré donc par le groupe des Fralib. Sacré souvenir, hein, Henri.
Ben oui, parce qu'en fait, ça participait à tous les contacts qu'on a eus, que ce soit avec des comédiens ou avec des saltimbanques comme notre ami Kadour. Et les saltimbanques, bien évidemment, Kadour et Saïd, pour tout dire, la tête un peu du groupe. Et effectivement, ils étaient dans une démarche, certes, de solidarité. Ils nous ont dit, tiens, on va vous amener la solidarité, mais c'est vous qui allez nous accompagner. Donc... Effectivement, dans le cadre de l'occupation de l'usine, on jouait un peu de la guitare. Enfin, on était voilà, rassemblés. On dit, tiens, s'il y a des joueurs, des musiciens, on va vous faire monter sur scène. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a fait, donc, dans son apport de solidarité, on l'a accompagné. Ça, c'est formidable. Et puis, dans le cheminement, je dirais, culturel, puisqu'on a cet espace qui s'est révélé à nous, au final... c'est une main tendue qui nous a fait, qui nous a fait découvrir un domaine que voilà, on connaissait pas. On consommait beaucoup, on consommait de la culture. Vous savez, je me nomme là, je me cite. Et là, ben, on l'a produit, donc du coup. Mais ça, ça a été fait avec son concours. Voilà, on va le dire comme ça. Los Falibos, c'était une écriture collective. Il est venu un après-midi, puis en une après-midi, on a écrit le texte de Los Falibos. Et ça, c'est merveilleux parce qu'effectivement, on a eu ce premier enregistrement aussi grâce à Géraldine. C'est une personne qui a créé elle est marquée sur le CD. Elle a fait une association, Tout Azilut, et donc elle nous a permis effectivement de nous accompagner et de faire donc l'enregistrement À Martigues, pour pas nommer la ville.
Il y a eu un autre CD aussi, oui. Sur lequel il y a des chansons que vous avez composées.
Oui, c'est ça. En fait, la démarche est partie dans le cadre de reprises. Et on s'est dit, on arrive à composer des choses, on sait écrire. Pourquoi pas faire les choses nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on a fait. On a écrit et composé un certain nombre de chansons. Et on a fait le deuxième titre. Et là, on a été comme des grands, on s'est pris par la main. Et en contactant la MJC d'Aubagne, qui elle-même, on va dire qu'avec les baisses de subventions, etc., les changements de politique, on a apporté notre solidarité en venant enregistrer chez eux. Et donc, parce que on les connaissait bien aussi, parce que c'est eux qui nous ont mis aussi le pied à l'étrier par rapport à la première de la pièce de théâtre aussi, que nous avons écrite.
Lors d'un théâtre forum, il me semble.
C'est ça, ouais. Et là aussi, on partait dans une terra incognita, comme on dit, mais ceci dit, c'était merveilleux de pouvoir défricher ce genre de choses. Et aujourd'hui, ça fait la pièce de théâtre, on l'a produite 21 fois.
Il y a d'autres dates prévues?
Oui, mois d'avril. Alors là, j'ai pas mon agenda sous les yeux, mais c'est du côté de Montpellier. Donc voilà.
On peut retrouver les infos quelque part?
Oui. Sur contact Scopti, on vous donnera toutes les infos là-dessus.
Merci beaucoup, Henri.
Merci beaucoup, Henri Solaire. Donc les coopérateurs de la Scopti qui ont de multiples atouts sous leurs manches. Et on accueille, c'est Cécile qui nous fait la super chronique coopération versus compétition.
Oui, merci Alima. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'un des grands mythes de l'économie libérale du XXe siècle, fondé sur une interprétation abusive de la théorie de l'évolution selon Darwin. C'est un certain Herbert Spencer, contemporain de Darwin, qui a adapté le principe de survie du plus apte aux sociétés humaines et développé ce que l'on a coutume d'appeler le darwinisme social. Cette interprétation libérale de la théorie de l'évolution a fait de la sélection naturelle l'explication essentielle du processus d'évolution et justifié une organisation sociale inégalitaire où la compétition de chacun contre tous est érigée au rang de valeur. Cette dérive interprétative a par ailleurs conduit à justifier différents régimes de domination des masses par une élite, tels que le colonialisme, l'eugénisme ou le nazisme, et pour certains, engendrer le néolibéralisme du XXe siècle. Pourtant, dès 1902, le savant Pierre Kropotkin affirmait déjà que la compétition est loin de constituer le seul facteur de l'évolution et que l'évolution progressiste est plutôt due à la socialisation et à l'entraide mutuelle. Plus récemment, Jean-Marie Pelt, biologiste, botaniste et écologue, soulignait dans son ouvrage « La solidarité entre les plantes, les animaux et les hommes » qu'au-delà de la loi de la jungle, face aux comportements agressifs et compétitifs, l'évolution n'a cessé de mettre en œuvre des mécanismes et des comportements coopératifs, créant des symbioses élaborées et d'étroites solidarités entre individus et espèces. Ces symbioses sont en effet des systèmes d'échange harmonieux, produisant des interactions de nature mutuellement bénéfiques entre des organismes d'espèces différentes vivant en contact direct les uns avec les autres. La plus connue d'entre elles étant l'association des fleurs et des abeilles. En effet, les fleurs fournissent la nourriture aux abeilles, en échange de quoi les abeilles sont le vecteur de fécondation des fleurs par pollinisation. Un nouveau regard porté sur les mécanismes naturels conduit au biomimétisme, c'est-à-dire un processus d'innovation dans les sphères techniques, économiques et sociales qui s'inspire de l'observation de la nature et des mécanismes du vivant. Le biomimétisme revendique un certain nombre de principes qui sont aujourd'hui bien utiles pour repenser nos fonctionnements dans un contexte de crise écologique, économique et sociale. Ces principes, inspirés par l'observation du fonctionnement des écosystèmes naturels, sont notamment de s'appuyer sur la coopération et la diversité, de ne pas surexploiter les ressources, d'utiliser les déchets comme matériaux, de s'approvisionner localement, d'optimiser plutôt que de maximiser et d'utiliser l'énergie avec efficacité. Ainsi, à la compétition, mode de régulation mortifère des échanges, nous sommes en droit de préférer la coopération qui est le principe fondateur et le moteur de la vie.
Merci Cécile. Avant de clore cette émission, on voulait mentionner d'autres initiatives qui revendiquent la coopération.
Oui, alors tout d'abord, je voudrais signaler le lancement d'un groupe à Marseille sur une dynamique vers une coopérative intégrale. Alors la coopérative intégrale, c'est une sorte de microsystème d'échange organisé entre acteurs locaux qui ne souhaitent pas mettre la monnaie au cœur de ces échanges. Alors, pour trouver plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Marseille Ville en Transition, m-v-t.info. Et il y a un troisième atelier découverte de la coopérative intégrale qui aura lieu donc mardi 8 mars à 18h45 au plan M, 9 rue de la Rotonde à Marseille.
L'association Assodev Marsnet, qui développe des outils collaboratifs et libres de droit à destination d'associations locales, et met en place toute une palette d'ateliers pour aider les associations à utiliser ces outils. Plus d'infos sur le site marsnet.org.
Et puis je signale aussi le Carnaval de la Plaine, qui est somme toute un carnaval coopératif et populaire, qui aura lieu dimanche 13 mars, comme son nom l'indique, dans le quartier de la Plaine à Marseille.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Magali Poivert, Pierre Blanc. Merci à Thibault. Merci à Henri Solaire. Merci à mes coéquipières. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 6e numéro de Métamorphose.